Dans quelques instants, nous allons donner la parole à donc Alain Levivier de l'Académie ESJ de Lille, qui est donc coordinateur de cette formation. Il va s'installer à ce micro près de moi, à ma droite, pour que nous puissions discuter. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'introduire dans cette émission. Peut-être qu'elle va nous dire son nom et tout ça, dès à présent, en prenant un micro, voilà. Voilà, donc, vas-y, je te laisse te présenter.
Bonjour, je m'appelle Jade. Oui. Je suis étudiante à l'Académie ESJ Lille en deuxième année.
Voilà, donc tu as eu cette expérience de Radio Campus l'année dernière.
C'est ça, enfin au début de cette année scolaire techniquement.
Ouais, c'est ça.
L'année dernière, j'étais pas ici, je faisais de la communication, je viens d'arriver, je suis une néo L2.
Ouais.
Et du coup, j'ai découvert le média radiophonique grâce à Radio Campus.
Super, il y a beaucoup de gens qui découvrent aussi grâce à Radio Campus. C'est un petit peu l'idée aussi d'une radio étudiante, hein, d'une radio d'université, dans une université tout au moins. Ouais. Et c'est justement d'être un outil au service de la population étudiante, en l'occurrence notamment de l'Université de Lille, bien sûr. Hein.
Oui, ouais, ça nous donne une voix.
Voilà, donc j'accueille donc Thomas Levivier pour la présentation de cette formation. C'est unique en France, sinon au monde. Bienvenue.
Bonjour René, bienvenue, merci de me recevoir. Oui, c'est unique en France, c'est bientôt les 10 ans. On est dans la 9e promotion où Yves Renard, que tu connais bien, a eu l'idée de créer une espèce de prépa pour que les étudiants puissent se préparer aux concours des écoles de journalisme, qui sont des masters, donc il faut accéder à ces masters avec une licence. Et c'est le partenariat qui est né avec l'Université de Lille, parce qu'il y a maintenant 25 licences qui sont partenaires. Les étudiants, comme Jade, font de l'histoire, du droit, de la science politique, de la philosophie, de la sociologie. Ils sont sur ce campus-ci à Cité Scientifique, ou bien ils sont à Pont-de-Bois, ou bien ils sont à Moulins. Et en option journalisme, c'est-à-dire qu'ils sont 3 jours et demi par semaine à la fac et 1 jour et demi chez nous à rue Gauthier-Châtillon, dans les locaux de l'école supérieure de journalisme.
Alors, l'école de journalisme de Lille est très connue, elle est assez ancienne, je ne sais pas si elle fête ses combien d'années là ?
Elle fête ses 100 ans cette année, on vient de lancer l'année du centenaire, il y aura vraiment pas mal d'événements tout au long de l'année et un grand temps fort au mois de novembre.
Voilà, donc en région et en France, il y a beaucoup d'autres, on va dire, lieux de formation au journalisme. L'école de journalisme master, bon, il y a celle de Lille, donc le ESJ Lille. Dans d'autres régions de France, il y a d'autres écoles, et notamment qui accueillent après certains des étudiants dont on va parler, qui sont à l'Académie ESJ et qui postulent pour des écoles, d'une manière générale, voir s'ils trouvent une porte d'entrée.
Exactement, il y a pas mal d'écoles à Paris, l'école de journalisme de Sciences Po Paris, le CFJ, l'IPJ, l'IFP, mais il y a aussi d'autres écoles en région, des formations à Toulouse, à Marseille, des formations à Grenoble, on peut faire du journalisme aussi à Tours, donc un peu partout en France, pas très loin de chez soi, on peut trouver des formations, mais c'est vrai que celle que je représente, le ESJ Lille, est depuis très très longtemps sur le trio de tête des écoles françaises.
Je me souviens parce qu'une année, j'avais une étudiante que j'avais accompagnée avant qu'elle n'entre à l'ESJ de Lille. Et il n'y avait pas à l'époque l'Académie ESJ. Et pendant un an, je l'ai briefée pour qu'elle puisse passer le concours. Donc elle est venue ici vers des émissions avec moi. Je lui ai expliqué quelques secrets, quelques façons de procéder. Et donc, à un moment donné, j'étais en vacances, elle me téléphone, elle me dit « Je suis reçue en entrée. » Alors, elle me donne le nom d'une école. Bon, ben, j'ai dit « Parfait. » Elle me rappelle 10 minutes après. Et puis, je suis encore reçue dans l'autre école. Et puis, encore une troisième école. Elle dit « Mais qu'est-ce que je vais choisir ?» Je dis « C'est très simple. Tu vas appeler, là on est vendredi, tu appelles demain samedi, les rédactions des 3 principaux médias, par exemple Europe, RTL, enfin, etc., en radio hein, bien sûr, hein, et tu leur demandes s'il fallait prendre quelqu'un d'une école parmi les 3, là, ce serait laquelle ? Et elle me dit, ils m'ont tous dit le SJ Lille.
Bah effectivement, on a formé, l'école a formé une grande partie de ceux qui exercent, de celles et ceux qui exercent aujourd'hui. Après, voilà, faire une formation reconnue, il y en a 14 en France qui sont reconnues, c'est intéressant. Et ce que tu viens d'expliquer, ça arrive chaque année en mai-juin où les étudiants qui sont chez nous présentent en moyenne 6-7 concours d'école pour multiplier leurs chances. Et puis, les résultats tombent et ils ont des premiers choix, mais... Alors si on les écoutait, ils voudraient tous rester à l'ESJ Lille parce qu'ils découvrent, ils aiment. Et puis finalement, ils se répartissent un peu partout en France pour aussi des considérations. Je sais que l'an dernier, il y a un étudiant qui a voulu aller à Paris parce que c'est l'année des JO. Il y est en ce moment et il veut être journaliste sportif. Et il s'était dit que c'était à Paris the place to be, si on me pardonne cet anglicisme. Mais donc voilà, les choix peuvent s'opérer pour différents critères. Certains aussi rejoignent des camarades dans des écoles, ont des attaches dans une région. Donc les choix sont multiples.
Après, quand j'ai donc donné des TD à l'ESJ pour l'Académie Magie, hein, il y a une élève en fin de cycle, elle avait une super note, hein, elle était brillante. Elle me dit, ouais René, je voudrais quand même te dire que je ne veux pas être journaliste, je veux être avocate. Et je suis venue justement faire ce cursus pour comprendre les médias, mais pas pour être journaliste. Et elle me dit, je suis vraiment désolée, mais tu n'as pas perdu ton temps. Elle dit, on se reverra peut-être dans le droit des médias.
Mais c'est vrai qu'on a pas mal d'étudiants qui, soit à la fin de la première année de licence, ou à la fin de la deuxième, ou même à la fin de la troisième, se disent, en fait, le journalisme, finalement non, mais j'ai envie de travailler dans la communication d'une grande entreprise ou dans la communication d'une ONG type Médecins du Monde ou Reporters sans frontières ou d'autres découvrent que dans leur licence dans laquelle ils sont en parallèle, eh ben en fait ils vont faire un master de droit ou ils vont faire un master en philo et puis c'est ce qu'on leur dit, mais on dit exactement la même chose, que ils n'auront pas perdu leur temps à s'approcher de l'actualité, améliorer leur écriture et leur expression et voilà, c'est une formation qui reste généraliste et qui reste surtout très ouverte. Donc ce qu'on aime bien dire, c'est ouvert sur les autres et le monde. Pour être journaliste, moi je pense qu'il faut être ouvert sur les autres et le monde. Et si on peut, à notre échelle, éveiller ça chez les étudiants, bah, on a déjà réussi une partie de notre mission.
Voilà, donc Thomas Levivier, cette formation elle est sur 3 ans. Enfin, on va dire c'est un cursus de 3 ans pour après passer les concours, etc. ou faire autre chose. Mais chaque année a sa spécificité. Donc nous, on connaît bien les L2 ici, puisqu'ils viennent faire la matinale de Radio Campus. Ça va redémarrer d'ici 15 jours. Il faut qu'ils soient formés à la technique, on s'en occupe, bien sûr, hein, puis les TD, etc. Mais il y a parallèlement à ça, en deuxième année, le web. Et puis avant, ben, c'est une formation plus générale sur les médias et puis peut-être une culture générale, c'est important.
Effectivement, cette première année, chaque année a sa spécificité. La première année, elle est généraliste. Parfois, les étudiantes et les étudiants peuvent être un peu déçus en disant « mais on ne touche pas encore au cœur du métier ». Alors on leur dit que dans les enseignements, non, mais ils peuvent, à travers les stages, à travers des projets étudiants, à travers des projets d'éducation aux médias, ils peuvent se rapprocher d'une pratique. La deuxième année, comme tu le disais, c'est 2 grands semestres. Un semestre de radio ici, avec l'animation de la matinale de campus. C'est vraiment quelque chose, et tu en sais quelque chose, qu'ils ont à cœur, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà une appétence pour la radio se révèlent, et ceux qui viennent sans trop savoir ce qu'ils vont y trouver apprécient vraiment. C'est rarissime de trouver un étudiant ou une étudiante qui dirait « oui, la matinale de campus, bof bof quoi ».
Bon, donc Jade qui nous a rejoint, elle va se mettre au micro juste en face de moi, sans y toucher bien sûr, hein. Et puis elle va retrouver presque ses marques, puisque au semestre dernier, elle a participé donc au matinal de Radio Campus dans des équipes, peut-être que, bon je pourrais en parler, mais elle peut exprimer comment ça fonctionne une équipe, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle y a trouvé comme intérêt, en fin de course, c'est peut-être ses projets d'avenir, Jade.
C'est vrai que, alors, je me retrouve beaucoup dans ce que vous disiez de tous les élèves aiment le TD Radio. Parce que je pense que c'est un retour, en fait, que j'ai eu, et un sentiment très fort de se dire, purée, mais on va faire des choses concrètes. Et le fait de dire, OK, alors voilà, pour tel jour, il faudra faire un reportage. Et que tout est libre, vraiment juste fait. D'un coup, on se sent à la fois un grand, grand pouvoir et donc de grandes responsabilités. On se dit, oh, il faut tout gérer. Et en fait, aussi ce qui est très particulier, c'est qu'il y a, c'est d'abord un travail par exemple solitaire. Je sais que moi mon premier travail ça a été le reportage, Donc je me disais, purée, je vais tout écrire toute seule. Et puis en fait, d'un coup, on réalise que non, en fait, on est dans une classe et tout le monde est impliqué. Et d'un coup, il y a le premier reportage, il y a ma camarade à côté qui me dit oh, mais attends, c'est notre premier reportage, tu veux pas qu'on le fasse ensemble et tout. Et on est allé ensemble faire un reportage sur la fête de la bière. Et c'était super, ça, c'était génial de pouvoir aller ensemble se confronter au réel. Et donc déjà cette expérience-là de créer l'info, l'agencer, discuter, se dire bah moi j'avais ce point de vue-là, et puis d'un coup la personne en face a un point de vue différent, mais différent qu'on n'aurait même pas imaginé. Et d'un coup on se dit ah mais oui, en fait on peut inclure ce point de vue-là. Et en fait c'est hyper, c'est très grisant en fait intellectuellement. Puis on arrive à la radio et là où moi je me disais purée, on va tous être là, il est 7h, on va tous être fatigués, on va tous faire la tronche. Et pas du tout, tout le monde se parle, tout le monde est très content, parce que ça fait penser, vous savez, quand un groupe va un peu vivre quelque chose qui sort de l'habitude, d'un coup ça soude beaucoup. Et de toutes les matinales que j'ai fait, je n'en ai jamais fait une où il n'y a pas eu un lien qui s'est créé, où après on s'est pas tous mis à sourire dans les couloirs, à se dire bonjour, parce qu'en fait on a l'impression qu'on se connaît. Après on va prendre le café ensemble, on se dit ah, purée, c'était trop drôle quand t'as dit ça, etc. Enfin vraiment c'est, ouais, c'est une super expérience, première expérience, ça marque.
Voilà, donc apprendre à travailler ensemble, en groupe, sur un projet bien déterminé et absolument à finaliser pour une émission concrète, en direct, ça c'est quand même fabuleux. Je suis pas sûr qu'en master, ils puissent faire du direct souvent.
Effectivement, c'est très très rare de pouvoir faire du direct, et ce que vient de dire Jade, c'est ce que disent pas mal d'étudiants. Ils sont aux manettes d'une matinale de 7 à 8, avec une petite formation technique auparavant, mais... Et finalement, chacun apporte ce qu'il est et ce qu'il a fait. Ils sont une douzaine dans une session. Il y a plusieurs rôles. Il y a celui ou celle qui va faire le micro-trottoir, l'interview, le billet d'humeur, présenter les infos pratiques et culturelles. Mais tout ça, c'est finalement des pièces d'un même puzzle. Et je pense que Jade l'a bien dit, quand la lumière rouge est là et qu'on est en direct, je pense que... tout le monde est embarqué dans le même dans la même matinale,
bateau.
Dans le même bateau.
Nous, on tient beaucoup à cette idée du bateau sur Radio Campus, parce que nous, on est né de l'idée des bateaux pirates en mer du Nord qui émettaient à l'époque. Hein. Donc, on a gardé un petit peu cette idée d'être dans un bateau et qu'il faut que ça fonctionne, quoi.
Effectivement. Et puis, on apprend aussi en faisant. Là, ils sont bien sûr que tout n'est pas parfait. On sait et on entend que. Au fur et à mesure que le semestre avance, il y a des automatismes qui se créent, il y a des choses qui sont beaucoup plus propres, entre guillemets, au niveau son, au niveau technique. Mais ils apprennent en faisant. Et ça, c'est vraiment hyper important. Nous, on croit vraiment à ça. C'est-à-dire que c'est un métier que, bien sûr qu'on peut donner des bases théoriques, bien sûr qu'on peut donner des grands principes, mais après, c'est vraiment se confronter au terrain, écrire ses premiers papiers, faire ses premiers sons, qui va permettre de vraiment se frotter à la réalité.
Alors, j'ai proposé à Jade qu'elle puisse venir pendant le mois de février pour faire... dans cette émission Quoi de Neuf, une carte blanche aux meilleures productions de l'année dernière, qui ont été réalisées par les étudiants de l'Académie Magie. Qu'est-ce que tu en penses, Jade ?
Je trouve que c'est une super idée, en fait, globalement, parce que bon, pour moi, ça me fait beaucoup plaisir, mais même, en fait, pour tout le monde, parce que, en fait, bah, d'ailleurs, c'est un petit peu le propre de l'ESJ. Tout à l'heure, vous parliez des projets étudiants, notamment pendant la première année. Effectivement, j'avais eu un ami que je l'étais fait en licence qui me disait « Ah, mais j'avais fait la première année de l'ESJ, mais... » C'est vrai que c'était quand même très généraliste. Après, finalement, je veux faire. Lui, il voulait te faire chercheur en histoire, donc rien à voir. Mais. Et moi, étant donné que je suis une néo-L2, j'avais été direct dans le vif du sujet. Mais en fait, c'est vrai que j'ai très vite compris, en me faisant des connaissances à l'ESJ, que c'est vraiment ce qu'on va faire à côté. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que les cours, ça nous apporte toutes les bases pour dire voilà, en fait, vous pouvez faire ça. Là, c'est vraiment l'impression qu'on a avec le TD Radio. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai commencé à faire des interviews. Et d'un coup, je me suis dit, mais je peux interviewer beaucoup de gens qui ont plein de choses hyper intéressantes à dire. Et là, la semaine prochaine, je vais interviewer un professeur en économie qui a accepté, etc. Et où je me suis dit, mais en fait, c'est génial, je peux donner la parole à des gens qui savent beaucoup de choses sur des sujets où plein de gens, en fait, pourraient se poser des questions. Et je me dis, oh purée, il faut que je me demande comment bien poser la question. Et d'un coup, on est embarqué dans quelque chose. Et en fait, je suis pas du tout la seule. J'ai mon amie Angèle qui fait son podcast à côté et où ils sont plusieurs à travailler dessus. Il y a quelqu'un qui fait la régie. Et en fait, chacun va lancer ses petits projets personnels. Et en fait, tout ça, c'est possible déjà parce qu'à la base, on nous a dit, tenez, essayez. Vous avez un TD radio, vous pouvez le faire. Vous avez là maintenant un TD web, vous pouvez essayer, faites des articles de fond, donnez-vous. Et enfin, moi, je trouve ça génial.
Alors, bien sûr, il y a le côté technique, prise en main des outils, réaliser les choses. Mais il y a aussi l'imagination au pouvoir. Comment tu ressens ça, toi ?
L'imagination, ça passe aussi par la technique, en fait, parce que je crois que ça a été mon premier coup de cœur en radio. Ça a été le fait de, justement, avec l'interview, de faire un montage. J'avais fait une interview avec quelqu'un qui parlait un étudiant qui parlait, en fait, globalement, la passion et la curiosité dans ce qu'on apprend et comment garder cette passion tout au long de ce qu'il faisait. Et en fait, je m'étais dit, tiens, je savais que cette personne était assez fan de cinéma et il m'avait parlé en off d'une interview qui lui avait plu. Et du coup, après, je me suis dit, il faut que je fasse un montage au début de ça, de cette interview-là, avec des sons de cinéma pour qu'on... Et quand je l'ai fait, je me suis dit, mais c'est génial, parce que d'un coup, on comprend tout de suite l'ambiance. Et en fait, c'est ces petites découvertes qu'on est tous amenés à faire sur comment ça fonctionne, comment capter l'intérêt, comment faire rentrer dans un univers. On se dit, mais c'est génial. Mais en fait, c'est vraiment en pratiquant. Et parfois, et surtout, en fait, je pense que ce qui est dur, c'est de sortir du côté un peu scolaire. On a l'habitude d'avoir un cadre très précis, très fermé, donc on a envie de suivre ce truc-là. Puis d'un coup, on se dit, non, faisons... Mon père, il me disait une phrase que j'adorais. Quand je devais lui réciter une poésie, il me dit, non, stop, stop. Fais-le comme si tu me le disais à moi, là, si tu me racontes. D'un coup, je faisais, ah oui, c'est vrai que les choses ont un sens, en fait, depuis le début, c'est pour des gens. Et ça, je trouve ça, c'est ça, en fait.
Alors, justement, tu viens d'évoquer la question fondamentale, c'est comment on approche un auditoire qu'on ne connaît pas complètement. On a une petite idée de qui pourrait écouter la radio, qui pourrait écouter à cette heure-là, quel type de sujet il aurait envie d'entendre. Bon, nous, on part toujours sur l'idée que des sujets un peu originaux et même de la musique un peu originale, c'est quand même le must, hein. Est-ce que toi, tu vois un petit peu ton avancée vers le média ou vers le journalisme sur chercher plutôt des choses originales de pointe ou quelque chose standard pour livrer ça à des médias standards qui veulent de la masse et pas forcément des choses pointues?
Alors moi, je suis plutôt partie dans ce que j'aimerais, ce qui se veut original, on va dire, à mon niveau de ce que je pourrais faire. Mais après, alors moi, je sais déjà que c'est plutôt le journalisme d'investigation qui me plaît. Donc, dans l'originalité, il y a des possibilités, mais en fait, c'est surtout les sujets, comment on va les traiter, quels sujets on se permet de traiter. Mais je pense que même pour travailler dans un média mainstream, comment dire, on sait qu'il va y avoir un cadre, certaines limites, etc. Mais j'imagine qu'il ne faut pas avoir peur quand même de challenger un peu ces limites-là, même si on sait que, par exemple, on est un nouvel arrivant. Donc au début, bien sûr, on fait ce qui est attendu de nous, évidemment, on rentre dans... Mais une fois au bout d'un moment, on commence à se prendre dedans, on se dit « Ok, je connais les règles et limites ». Je peux commencer à les challenger un petit peu, à dire, ah bah écoutez, j'ai proposé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et à prendre des libertés. Et c'est comme ça qu'on innove et qu'on participe à une évolution. Donc oui, moi, je me verrais plus comme ça, dans quelque chose d'un petit peu original. On essaye.
Donc Thomas Levivier, quand on entend les rêves, les projections hein, de Jade, et qu'on les confronte après à une école en master qui a pour objectif de former des professionnels pour un monde qui en demande, alors peut-être qu'on peut parler de ce monde en demande, il y a peut-être un décalage entre ce qu'on peut rêver et ce qu'on est dans le cadre d'un travail rémunéré, puisque c'est quand même un métier, contraint d'une certaine manière de réaliser.
Effectivement, il y a toujours ce décalage entre ce qu'on aimerait faire et puis ce que les médias proposent comme poste. J'entends très bien ce que vient de dire Jade. Effectivement, des choses, si on parle de médias mainstream, classiques, un poste de reporter dans un service police-justice, un journaliste de sport ou une journaliste de sport... journaliste culture, voilà, on a l'impression qu'il y a effectivement des grandes catégories de médias, de façons d'exercer ce métier. La radio, c'est pas le web, mais en même temps, on a des journalistes de presse écrite, je pense à la Voix du Nord, qui sont amenés à faire des vidéos, donc il y a une polyvalence. Tout ça fait que j'entends et j'apprécie ce que vient de dire Jade sur... Bien sûr qu'il y a un cadre, mais à l'intérieur de ce cadre, vous avez un journal de 8 minutes, vous avez une chronique d'une minute 30, vous avez 4000 signes ou 2500 signes dans de la presse écrite. Dans ce cadre-là, vous avez quand même une certaine liberté et bien entendu que des choses originales sont attendues. C'est l'histoire des angles, c'est ce qu'on incite les étudiants à travailler. C'est-à-dire que bon, voilà, je pense à une actualité qui est celle de la nomination d'un nouveau Premier ministre. On peut dire, il a 34 ans, il a 34 ans, et le répéter. Et puis, on peut aller chercher des choses qui n'ont peut-être pas été dites. Alors après, il y a des barrières aussi de vie privée et de choses. Et puis chacun doit, par rapport à son média, je suis un média régional, je suis un média qui parle d'innovation, je suis un média scientifique, ben je vais avec mon angle, avec tu parlais tout à l'heure d'auditoire, mais avec mon public, avec mon lectorat, avec ceux qui m'écoutent, je vais essayer d'apporter quelque chose qui soit cohérent, mais en même temps d'apporter quelque chose qui puisse surprendre. Moi, j'aime bien cette notion de journalisme, de l'offre. Il faut offrir à nos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, des choses qui ne soient pas complètement attendues. Alors, sans bousculer complètement nos auditoires, il ne s'agit pas de parler d'économie aux lecteurs de l'équipe ou de parler que de sport aux lecteurs de La Voix du Nord. Mais moi, j'aime bien cette notion d'aller surprendre un peu ceux qui nous lisent et suivent.
Est-ce qu'il reste encore beaucoup de liberté dans des grands médias qui sont en gros tous dominés par le monde capitaliste à fond? Je veux dire, on voit bien que les taux se resserrent et qu'il y a une emprise du grand capital, hein, je parle de l'international, sur des médias pourtant au départ qui étaient plus libres, enfin qui avaient une certaine forme de liberté.
Effectivement, quand on voit que la presse française, si on parle d'elle, elle est détenue par des grands capitaines d'industrie, est-ce que c'est facile d'aller parler d'armement au Figaro? Est-ce que c'est facile, ne serait-ce que dans La Voix du Nord, de critiquer les résultats de la Banque du Crédit Agricole, qui est un des actionnaires de La Voix du Nord? Effectivement, cette limite-là, même si on dit que la rédaction est séparée des services publicitaires et tout ça, quand on a un actionnaire qui est... voilà, est-ce que c'est facile de mettre en cause les choix ou du groupe LVMH quand on est aux Parisiens ou aux Échos et que c'est votre patron? Voilà, c'est pour ça peut-être que la presse indépendante, je pense au Canard Enchaîné, à Mediapart, quand vous dépendez que de quand vos financeurs sont vos lecteurs ou auditeurs ou voilà, c'est plus simple. Là, il y a vraiment la crise de la presse, c'est peut-être aussi la crise de son financement et puis voilà, qu'on rajoute aussi que l'État, qu'on peut critiquer, finance aussi pas mal et aide certains médias, c'est un équilibre un peu compliqué.
Alors, dans le couloir de Radio Campus, là, avant que les élèves entrent, mais que tout le monde entre, hein, il y a la charte de Munich qui est affichée. Tu sais, c'est ce qui a été établi comme code, en fait, convention, et on retrouve ça aussi dans des syndicats qui mettent ça en avant. Je vois la CFDT, puisque vous avez aussi des syndicats dans l'ESJ, et je vois la presse syndicale, notamment, je suis tombé sur ce journal de la CFDT qui met ça en avant, donc la charte donc de Munich, qui donne le cadre, les conventions, et aussi une certaine forme d'indépendance du journalisme.
Oui, il faut pouvoir... Pardon. Il faut pouvoir se souvenir que ce métier, effectivement, il correspond à certaines règles, des règles qui peuvent aller de soi, comme la recherche de la vérité. Quand on dit ça, c'est un bien grand mot. Et quand vous dites ça à pas mal de gens, on peut le comprendre comme étant différent. Est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'il y a à chaque fois des vérités? Bon, mais se reposer de temps en temps, relire ces textes-là, c'est un peu comme si on se mettait à relire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou la charte, qu'est-ce que je voyais récemment Oui, la charte des droits... en fait, je suis retombé il y a quelques jours sur le fameux projet de constitution pour l'Europe en 2005, texte qui avait été refusé par les Européens et les Français notamment. Et dans ce document, il y avait une charte des droits fondamentaux qui, du coup, je ne sais pas si elle a été adoptée, mais finalement, se reposer les principes de dire que voilà, la liberté de conscience, la liberté syndicale, la liberté de pensée sont importantes, je pense qu'il faut pouvoir relire ces textes-là. Après, quand on est dans une rédaction où votre rédacteur en chef ou votre chef de service vous demande, conseille fortement, suggère ou oblige à traiter de tel ou tel sujet avec tel ou tel angle, bon, j'imagine que certains confrères, journalistes doivent être dans des dilemmes un peu compliqués parfois.
Donc, on a abordé un peu la diversité des angles d'approche de ce métier. On peut parler aussi de statut, de salaire. Il y a un peu toutes les formes, les pigistes, etc., les salariés des médias. C'est compliqué ou pas?
Il y a deux grands types, effectivement, de modes d'exercice. Soit vous êtes salarié d'un média, et donc vous avez, comme plein d'autres salariés, votre salaire qui tombe à la fin de chaque mois et une certaine sécurité par rapport à ça. Soit vous êtes journaliste indépendant, c'est le cas de certains jeunes journalistes, mais pas que jeunes, qui décident pour des raisons aussi de liberté et puis d'organisation de leur vie perso, de travailler de façon indépendante, parce que peut-être ils sont spécialisés d'un sujet, ils sont spécialisés d'environnement ou de sujets sur, je sais pas, le handicap ou de sujets internationaux, et ils veulent travailler essentiellement sur ces sujets et les vendre à différentes rédactions. Donc à ce moment-là, effectivement, ils travaillent ce qu'on appelle à la pige, ils sont rémunérés à l'article, c'est-à-dire que il faut là dans ces cas-là prendre en considération qu'il y a du travail de recherche, il y a du temps de reportage, et il faut pouvoir vendre ces sujets suffisamment chers, bon, même s'il y a des grilles qui existent, pour pouvoir en vivre. Après, effectivement, être journaliste indépendant, c'est une sacrée organisation. Il faut prévoir aussi les moments où vous êtes en congé, ben vous n'avez pas de congé payé, donc il faut avoir travaillé une activité assez importante à côté. Ces journalistes-là peuvent aussi avoir des travaux, des missions d'enseignement, comme on en a certains à l'école, des intervenants qui sont journalistes indépendants et dont l'enseignement est une part de leurs revenus. Mais effectivement, c'est pas très évident. Les salariés, les grandes rédactions ont tendance à employer un peu moins de journalistes que par le passé. J'ai été moi, journaliste à la Croix du Nord, ici dans la région, entre 2008 et 2015, et à cette époque-là, j'avais retenu qu'il y avait 365 journalistes à La Voix du Nord, un par jour de l'année, quoi. Et je pense que la rédaction de La Voix du Nord n'est plus à ce niveau-là de journalistes salariés, que au fur et à mesure, à la faveur de plans qui ont fait partir certains journalistes. Bon, cette rédaction, elle est un peu moins nombreuse aujourd'hui. Alors, oui, on peut rationaliser des choses, mais c'est vrai que c'est un métier qui peut connaître une certaine précarité, et on continue de former des journalistes parce que on a besoin de journalistes, mais peut-être plus dans les mêmes rédactions ou dans les mêmes médias qu'auparavant.
Alors, est-ce qu'il y a quand même une base minimale, un socle, je sais pas, un RSA pour les journalistes ?
Ben, il y a des tarifs de pige qui sont définis. Tu parlais des syndicats tout à l'heure, souvent par des instances, et effectivement, je pense syndicales, pour se mettre d'accord sur, voilà, le fait que un certain travail mérite un certain niveau de rémunération, mais c'est souvent inférieur si on compte tous les coûts globaux. Si vous êtes journaliste indépendant, vous devez aller faire un reportage à 70 km de chez vous, à prendre votre voiture, à compter les kilomètres. Le temps, je discutais encore avec une journaliste correspondante ce matin, qui disait, voilà, quand je vais à Dunkerque, je suis basé à Lille, mon temps de Lille-Dunkerque, même s'il peut être rémunéré par mon média, c'est du temps que je passe pas à faire autre chose, à lancer des contacts et tout ça. Donc vraiment, il y a cette exigence du journaliste indépendant qui doit, même s'il au final travaille sur les sujets qu'il aime et au rythme qu'il désire ou qu'elle désire, cette forte exigence financière, on fait pas fortune dans le journalisme, je serais tenté de dire.
Voilà, donc néanmoins ça motive beaucoup de personnes, jeunes en général, et on leur souhaite bien sûr bon vent dans ces métiers, et puis dans tout ce qui est développé, pas seulement dans ce métier, mais à partir de cette idée de médias. Merci donc Alain.
Je voulais juste rajouter, je voudrais pas finir sur cette note pessimiste au niveau financier. Parce que c'est un métier qui a énormément de sens. Les journalistes sont des courroies de transmission, et Jade le disait tout à l'heure, voilà, on va interroger des gens et puis on porte ce message à d'autres, et ça reste vraiment très très utile aujourd'hui.
Ben, plus qu'utile, indispensable pour une société qui se dit démocratique.
Effectivement.
Merci Jade, et bonne continuation aussi, hein, bien sûr.
Merci, merci.
Vous écoutez Radio Campus 106 FM, cette émission est terminée, quoi de neuf, mais on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures radiophoniques sur aussi campuslille.com. Vous pouvez réécouter toutes les émissions pendant 8 semaines, dans le menu, voilà, n'hésitez pas à fouiller, il y en a, il y en a, il y en a.